Les écrivains vont maintenant évoquer à leur façon le rapport qu'ils ont à l'œuvre de Julio Cortázar, lisant, écrivant. C'est Geneviève Brisac qui va ouvrir ce moment-là, lisant, écrivant elle aussi, et Jean-Baptiste Parra, à l'issue de leurs propos, évoquera et présentera la revue Europe qu'il a consacrée à Cortázar. Avant que tu ne lises, Geneviève Brisac, Geneviève est écrivain, traductrice, éditrice. Cette année, donc cet automne, elle publie Dans les yeux des autres à l'Olivier. Et avant que tu ne prennes la parole, je voudrais juste lire ce cinquième poème de Cortázar qui figure dans Cinq poèmes pour cri, que je te donne. Peut-être qu'il aurait pu te le donner, je ne sais pas. Je ne te fatiguerai plus avec des poèmes. Disons que je t'ai dit nuage, ciseaux, cerf-volant, crayon, et que peut-être une fois tu as souri.
Bon, alors évidemment, c'est un petit peu intimidant après des interventions extrêmement savantes et précieuses de raconter des petites histoires. Enfin bon, je suis là pour ça. Donc ce texte s'appelle Julio Cortázar, rue Jacques Callot, graveur. Il a un surtitre, Here lies one whose name was written water, qui renvoie évidemment à Keats. Donc Julio Cortázar, dans mon histoire, a un peu plus de 50 ans, c'est-à-dire on a fait un petit bond dans le temps par rapport à l'intervention de Sylvie Crottin. Il est assis à droite, près de la porte, sur un banc de bois, à une table de bois, et il boit café sur café en fumant. C'est le matin, 11h, ou bien en fin de journée, et il lève de temps à autre la tête de son livre, et le café s'appelle La Palette. Il est ici à Paris, rue Jacques Callot, graveur. Julio Cortázar vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il arpente la ville, il connaît tous les cafés. La Palette n'est pas le moins poétique à l'époque, car il y a long à dire sur la transformation des cafés les plus habités en lieu de déserts psychiques. Une jeune fille de 14 ans, qui pèse un peu plus d'une trentaine de kilos, vient chaque jour dans ce café. Elle boit des cafés, elle lève de temps à autre la tête de son livre. Alors, le regard bleu, les yeux écartés du géant, croise les yeux marrons et enfoncés de la jeune fille. Et, comme ni l'un ni l'autre n'aiment les mondanités, il replonge. Et les semaines passent, plusieurs saisons, l'automne et ensuite l'hiver. Un jour, il se lève de son banc et il regarde le livre qu'elle lit. La poésie, Boris Vian ou autre chose, les animaux et leurs hommes de Gene Grindel, dit Éluard, des calligrammes, c'est l'époque. Il dit qu'il aime bien ou beaucoup les animaux, les bestiaires, les fourmis qui sont les reines de la création, les jaguars, les ours mous, les mouches joyeuses. Elle se replie un peu plus sur elle-même, mais elle est contente. Elle regarde ce qu'il lit. Cela restera un café secret. Il parle. Il parle de l'autoroute du Sud et de ses embouteillages. La jeune fille en sait long sur les nausées du dimanche soir aux alentours de Ris-Orangis. Il parle Dauphine et Simca et Tonus et de chevaux. Il parle bagnole. Et comment on s'organise quand la vie s'arrête, par choc contre par choc. Il parle des autoroutes. Les aires d'autoroute qui sont mystérieuses, la vie moderne, le linoméum, les gens en uniforme qui ne disent jamais leur nom, les gens derrière les guichets innombrables qui ne disent jamais leur nom. Comment peut-on parler avec des gens dont on ne sait pas le nom? Décidément, le dialogue est impossible avec toutes les autorités. Les arêtes d'un monde glacial nous écorchent. Julio Cortázar aime parler avec les enfants, c'est visible. Il se sent mieux avec eux qu'avec la plupart des adultes. Sa seule patrie, l'enfance, comme je l'ai lu hier à propos d'autre chose. Julio Cortázar est le traducteur des 4 filles du docteur Marsh, mais aussi de L'homme qui en savait trop, de J.K. Chesterton, de Robinson Crusoe, qu'on a évoqué. Nous aimons Chesterton, sa pipe, son humour, son style impeccable. Et Robinson, que nous avons évoqué, est un personnage essentiel pour Julio, à mon avis. Il parle de John Keats. Elle adore John Keats, comme toutes les jeunes filles éprises de sublime, de commencement ardent, comme toutes les jeunes filles horrifiées par les mesquineries de la vie ordinaire. Il lui dit ce qui est écrit sur la tombe du poète. « Here lies one whose name was written water. » Elle apprend ce vers par cœur. Peut-être parle-t-il de science-fiction. C'est même certain. car la jeune fille connaît Van Vogt et mieux encore Isaac Asimov et Philip K. Dick. Bon, on va un petit peu passer sur les connaissances de la jeune fille. Elle a lu tous les livres de Robert Sheckley, elle a lu Ray Bradbury. Elle est snob, comme on l'est à 14 ans, et elle trouve Ray Bradbury trop connu. Mais bon, Fahrenheit 451. Ce sont de bonnes conversations qui relient la jeune fille à un monde qu'elle était en train de quitter pour incompatibilité d'humeur. Et je lui en suis à tout jamais reconnaissante, et c'est probablement la raison de ma présence. Julio Cortázar, à l'aquarium du Jardin des Plantes. Remontons un peu en arrière. Flashback. 1952, arrivée simultanée de Julio et de la jeune fille dans nos parages. Un jour, elle vagit rue de la Bienfaisance, où on le retrouvera lui aussi. Les hasards objectifs sont vraiment très étranges en ce qui les concerne. Il débarque à Paris pour cause d'exil volontaire. On le dit trop peu souvent, Julio Cortázar a l'âme juive. Donc, il erre dans Paris, il va au Jardin des Plantes pour saluer les lions et les panthères. Il trouve les lions gris et moches, la panthère d'or, pas de jaguar, un animal qui lui ressemble, je trouve, une ressemblance qui n'est pas que sonore. Comme quoi, on est très handicapé par les jaguars, dit-il. Alors, survient cette rencontre décisive avec l'axolotle. L'axolotle le regarde de ses minuscules yeux d'or. Il est une gelée rose, une pierre transparente et molle, et chaque fibre du corps de Cortázar, il l'écrit ainsi, ressent la souffrance bâillonnée de cet être cloué au fond de l'aquarium. Les axolotes sont proches de nous. Ils sont humains. Il suffit de regarder leur petite figure triangulaire aztèque, il suffit d'éprouver leur regard d'or, terrible, communicabilité, incommunicabilité absolue. L'autre. Si Julio Cortázar parle tant et de manière si proche de nous des animaux, c'est de cela qu'il parle, la liberté et le gouffre de l'autre. J'ai su plus tard que l'axolotle était l'incarnation du symptôme nommé néoténie. Je vous l'offre. La néoténie décrit en biologie du développement la conservation de caractéristiques juvéniles chez les adultes d'une espèce. Tout à fait Cortázar, qui eut si peur de ce qui s'était passé avec l'axolotle en 52, pendant que je pleurais toute seule rue de la Bienfaisance, sans que jamais personne ne vienne me consoler. Si peur, il eut, qu'il ne voulut jamais retourner devant la vitre froide de l'aquarium. « Il ne revient plus », écrit l'axolotle à la fin de la nouvelle de 1952, tandis que je vagis épuisée. « Il ne revient plus. » « Ce qui me console, » dit l'axolotle, « c'est de penser qu'il va peut-être écrire quelque chose sur nous. » L'échange a eu lieu. « Maintenant, je suis un axolotle, » dit Cortázar. Et c'est effrayant, bien sûr. Julio Cortázar, au Café de l'Amérique, place Saint-Sulpice. Pour échapper aux trop violentes angoisses à l'entonnoir monstrueux du regard axolotle, et comme je le comprends, Julio Cortázar va aussi au Café de la Mairie, premier étage. J'y retourne, pour les besoins de l'enquête. J'y vois des couples qui se disputent et s'embrassent comme dans les contes de Julio, en abîme. Des filles sorties de films de Chabrol, de Truffaut, de Godard, avec des jupes Vichy, des foulards, qui croisent les jambes et se croient dans un roman. C'est froid, la peur revient. Voici Pierre et Michel, les personnages d'Armes secrètes, encore une histoire de possession, un fantôme qui envahit un corps, un être incorporel fait basculer un couple, dit-il. Il a le café de la mairie, banal, ses banquettes rouges, la vue sur Saint-Sulpice, en transparence, la guerre, un viol, où trouver la paix. Je vais au café de la mairie, premier étage, j'observe des couples, je pense à Carole Dunlop, morte à 36 ans. Je ne l'ai pas connu. Julio Cortázar, le chronope et Lucas. Il faut dire qu'entre-temps, Cortázar et moi, nous nous sommes perdus de vue. Je distribuais des tracts, il parcourait le monde pour défendre des résistants chiliens et dénoncer les crimes de la dictature de Pinochet. Quel patronyme, me dis-je en écrivant ce nom à I, Pinochet, au tribunal Bertrand Russell. Il parcourait le monde pour qu'on n'oublie pas les noms des victimes de la dictature argentine. Il courait, il tombait, il vieillissait, il se battait avec son habituelle douceur. On n'allait plus à la palette. J'ai su qu'il avait une maison à Seignon. Encore une coïncidence. Dans ce village du Luberon au nom horrible, j'ai eu plus tard un de mes pires chagrins d'amour et puis j'ai su qu'il était malade. Dès après 50 ans, nous commençons à mourir insensiblement en d'autres morts, note-t-il, en évoquant le jour où mourut Jean Cocteau, le 11 octobre 1963. C'est ce que je me suis dit quand il est mort. J'avais pas encore 50 ans, mais je voyais le coup venir. Alors, souvent, je pense au chronop. Au début, je n'aimais pas tellement ce personnage. Je n'aimais pas la métaphore des trois ordres, chronop, fameux et espérance. J'ai changé. Je me souviens d'une conversation avec Irène, quand elle a nommé son fils aîné Manuel en hommage au livre de Manuel. Les chronopes, c'est trop léger, disions-nous. Trop léger pour notre sérieux d'alors. Aujourd'hui, j'adore le chronop insolent et anarchiste qui est son père et ne veut pas d'enfant, qui regarde le soleil se lever, qui gaspille son dentifrice tant il appuie sur le tube par enthousiasme. Le chronop peu fiable et poète, qui ressemble aux plumes de Henri Michaud, qui ressemble aux fleurs solitaires et dessine des hirondelles sur le dos des tortues de mer pour les réconforter. Le chronop, être fondamentalement bon, un peu naïf et un peu teigneux aussi. Comme on m'a dit qu'il fallait lire un truc, j'ai retrouvé une petite histoire de chronop qui était très bien, là, tout à l'heure. Faites comme chez vous. Vous allez voir que, bon, faites comme chez vous. Une espérance, donc personnage féminin, se fait construire une maison. À l'entrée, elle met une plaque qui dit « Bienvenue à ceux qui entrent ici ». Un fameux, l'autre type de personnage, pas très sympathique, il faut bien dire, se fait construire une maison et ne met aucune plaque. Un chronop se fait construire une maison et, pour sacrifier à la coutume, il mit sous le porche plusieurs plaques qu'il acheta ou fit faire. Les plaques étaient placées de façon qu'on puisse les lire dans l'ordre suivant. La première disait « Bienvenue à ceux qui entrent ici ». La deuxième disait « La maison est petite, mais le cœur est grand ». La troisième disait « Un hôte dans la maison est aussi doux que le gazon ». La quatrième disait « Nous sommes pauvres en vérité, mais riches en bonne volonté ». Et la cinquième disait « Cette plaque annule les précédentes. Tire-toi, salaud ». Faut se méfier des gentils. Hein. Donc, comme je reprends les chronopes, j'ai plein d'histoires de chronopes, je vous les conseille. Ce quarto présenté par Sylvie est absolument formidable. Et il y a plein d'histoires de chronopes et de Luca. Alors, Luca, donc, c'est un autre hétéronyme de Cortazar, enfin, un autre personnage, disons plutôt. Julio Cortazar écrit de nombreuses aventures ordinaires et poétiques. Il y a une scène de l'hôpital que je voulais vous lire, parce qu'en fait, de toute façon, on n'a pas le temps. Et puis, elle est dans un petit livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Page inespérée ». Et donc, Cortazar est à l'hôpital et des soi-disant amis viennent le voir. Et alors, il décrit tellement bien à quel point c'est emmerdant quand des soi-disant amis viennent vous voir et que vous êtes à l'hôpital. Formidable. Une forme de poésie que je conseille. Donc... L'hôpital, souvenez-vous donc de ces scènes de l'hôpital où il vous a démasqué, vous, les visiteurs, de vrais vautours. Pas moyen d'être hospitalisé tranquille sans vous voir débarquer. Souvenez-vous aussi de ces scènes de l'hôpital avec le médecin qui n'écoute rien, ça tout le monde connaît, qui pense à ses vacances, encore un dialogue impossible, plus impossible encore qu'avec l'axolotl, qui au moins, lui, vous regarde dans les yeux. Lucas, personnage que j'adore donc, avec ses cadeaux à la gomme, ses chaussures à cirer et ses discussions politiques. Lucas est un chronop qui réfléchit sur la littérature. Il discute avec ses camarades de l'état du roman, de l'état du conte, des problèmes que soulève la littérature soi-disant engagée et qui donc n'en est pas du tout. Primum militare, deinde, philosophare ou scrivere. Avec la satisfaction enflée d'une poule, Lucas pond de temps en temps un sonnet. C'est peut-être un sonnet qui vient d'arriver en fait. Et je comprends, arrivant donc au terme de cette enquête, pourquoi il me manque tant. Sa modestie vraie, son ironie sauvage, sa poésie dont on a déjà beaucoup parlé cet après-midi, joueuse et libre, sa poésie totalement allergique à toute convention. Alors oui, Julio, je te salue, vieil ennemi de la langue figée. Je te salue, vieil ennemi de la lourdeur académique. Je te salue, vieil ennemi de la pause. Je te salue, vieil et radical ennemi des dialogues impossibles. Salut à toi, doux railleur des pouvoirs établis. Toi qui écrivis, je hasarde, donc je suis, je hasarde parce que je suis et ne suis qu'hasardant, Cortazar.
Merci Geneviève Brisac de cette lecture de ce texte si précieux et si important, je pense, pour toi comme pour nous. Pages inespérées, publié chez Gallimard, traduit par Sylvie Protin.